Tech It News.
Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Tech It News, on se replonge sur un projet qui a animé une bonne partie de l'année scolaire 2014-2015. Des élèves du lycée agricole Claude Simon ont travaillé pendant plusieurs mois avec un intervenant de Tech It sur l'élaboration de 6 émissions consacrées à des producteurs ou agriculteurs des Pyrénées-Orientales. Ils sont ainsi allés à la rencontre de producteurs de bière, d'éleveurs de chèvres, de producteurs d'huile essentielle, de fabricants de pain, de producteurs de safran ou encore de vinaigre. Ils ont ainsi réalisé des interviews et puis des morceaux de musique originaux en compagnie de leur professeur Hervé Philippe. Aujourd'hui, il est temps de valoriser tout ce travail et c'est ce que nous allons faire tout de suite en écoutant l'émission consacrée au producteur d'huile essentielle Flora Luna.
Tech It et le LPA Claude Simon présente Carnet de voyage.
Bonjour chers auditeurs, ici Anaïs et Sarah du lycée agricole de Rivesaltes. On aborde aujourd'hui en votre compagnie les huiles essentielles. Samuel Moussali, un producteur d'EPO, a très aimablement accepté de nous accueillir dans son laboratoire. Si on le laissait se présenter.
Moi, c'est Samuel Moussali et j'ai une petite entreprise qui s'appelle Flora Luna, dont le but, c'est de produire des huiles essentielles. Voilà, à partir d'un champ où je cultive des plantes aromatiques, à Los Mazos, près de Prades, pied du Canigou, et à partir de zones de cueillette qui se trouvent dans tout le Languedoc-Roussillon, on va dire, pour les plantes entre guillemets sauvages.
Les herbes aromatiques sont vraiment biologiques, produites avec amour, elles nous rendent de glamour.
Dans un second temps, Samuel Moussali a parlé de façon simple et perspicace de son installation. Écoutons-le.
Combien d'années ça vous a pris pour installer tout ça, pour arriver à ce que vous êtes
surtout
maintenant?
Les cultures.
Bon, alors les cultures, ça met 2 ans avant de donner, hein, tout ce qui est plantes pérennes comme lavande, thym, lavandin, tout ça. Première année, on a une petite récolte, deuxième année un peu mieux, troisième année, ça commence à donner. Au bout de 4 ans, la plante est en plein épanouissement. Les rosiers, c'est encore plus long. Et par contre, la menthe, dès la première année, on a une récolte, mais elle va s'étoffer, coloniser un petit peu le terrain au fur et à mesure du temps. Donc c'est un peu variable, mais ça prend quelques années minimum. Et après, l'installation du labo, la maîtrise de la distillation, tout ça. Voilà, je peux dire que maintenant, au bout de 3 ans et demi de pratique, je commence à avoir la main, à avoir mon petit réseau de commercialisation, à savoir de quoi je parle et comment je le fais. Et donc c'est maintenant que je passe en mode entièrement professionnel avec ce nouvel alambic qui va arriver.
Bonne explication, vous trouvez pas?
Plus d'analgésiques, plus d'antibiotiques, explosion de saveurs qui bouleverse le cœur.
Très important, pas d'alambic, pas d'huile aromatique. Mais savez-vous tous ce que c'est? Je pense que non. Laissez-le vous éclairer sur ce sujet.
Alors là, on est au milieu de l'alambic. Donc l'alambic, c'est constitué de trois parties, hein. Un générateur vapeur qui produit de la vapeur d'eau. Voilà, c'est cette vapeur d'eau qui va arriver dans la cuve à plantes, qui est pleine de plantes. Et la vapeur à 100 degrés, elle arrive et elle fait exploser toutes les petites poches des plantes qui contiennent les huiles essentielles. Par exemple, quand vous frottez une feuille de menthe dans un champ ou une feuille de laurier, ça sent bon sur les doigts. Et bien ça, c'est de l'huile essentielle. Vous venez d'exploser des petites poches d'huile essentielle à la surface de la feuille. Alors c'est la même chose que la vapeur d'eau va faire, c'est-à-dire qu'elle va, faire exploser ses poches et entraîner les huiles essentielles dans son mouvement ascendant. Donc la vapeur d'eau va monter dans la cuve à plantes, en faisant exploser les poches au passage, en prenant l'huile essentielle, en saturant d'huile essentielle, monter. Et après, elle va arriver dans le troisième élément, qui est le refroidisseur, le serpentin, et lui qui est plein d'eau froide, qui est refroidi en permanence. Donc cette vapeur chargée d'huile essentielle, quand elle touche l'eau froide, instantanément, elle se liquéfie. On est d'accord? Comme de la buée sur une vitre. Et elle tourne dans le serpentin, et elle sort dans le vase florentin, ou l'essentiel, qui est un petit appareil en verre ou en inox qui permet par un système ingénieux de faire flotter l'huile essentielle au-dessus de l'eau florale et de séparer l'huile essentielle par, tout simplement par décantation. Donc on a 2 sorties dans le vase florentin. Une sortie haute pour faire sortir l'huile essentielle et une sortie basse pour faire sortir l'eau florale. Et on peut, comme ça, en continu, avoir à la sortie de l'alambic l'huile essentielle qui s'écoule d'un côté et l'eau florale de l'autre. Une fois qu'on recueille ces 2 produits, on passe au labo, dans une zone propre, stérile, et c'est là qu'on va prendre l'huile essentielle brute, la mettre en flacon, lui mettre un numéro de l'eau, l'envoyer à l'analyse pour savoir exactement quels sont ses constituants, et c'est là aussi qu'on va mettre les eaux florales brutes en gros flacons, gros bidons en verre, qui vont ensuite être reconditionnés en petits flacons. Voilà, et prêts pour être vendus à tout le monde.
nous explique que grâce à cet alambic, on obtient du liquide.
Une fois qu'on a distillé, on a donc nos huiles essentielles dans un bécher, voilà, un petit pot en verre. Et ces huiles essentielles-là, je vais les filtrer et ensuite les mettre dans mon stock, dans des flacons en verre. Donc là, voilà, ça c'est mon stock d'huiles essentielles avec des huiles essentielles pures là-dedans. Voilà, c'est vraiment un stock voilà, d'huiles essentielles pures, pas mis en flacon, avec un numéro de lot. Par exemple, ça c'est l'estragon. Voilà, je cultive un petit peu d'estragon dans mon champ. Donc voilà, on a de 200 ml, 250 ml d'huile essentielle d'estragon. Alors... Là, il y a 35 huiles essentielles différentes. Ça représente un véritable petit trésor. Il faut les conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité et de l'oxygène. Donc, on ferme ça soigneusement. Et après, on va les retrouver, les mêmes huiles essentielles, dans des petits flacons. C'est ça que je vais vendre, en fait, au public. Donc, tous ces petits flacons de 5 ou de 10 ml sont pleins d'huiles essentielles qui reprennent le nom français, le nom latin, le numéro de l'eau, des précautions d'emploi et les principaux composants. Et après, on trouve ici les huiles aromatiques. Donc, c'est des huiles qui vont permettre soit de parfumer, soit qu'on peut les utiliser comme on veut.
En pleine terre océanique, un voyage féerique, une escapade réelle, une vraie lune de miel.
Attention, il faut savoir qu'il existe aussi les huiles végétales. Une élève l'a interrogée dessus, en particulier sur celle du noyau d'abricot. Écoutons sa réponse. Dans la lancée de toutes nos questions, nous avons testé deux eaux florales, celle de la menthe poivrée et de la rose de Damas. Voici notre échange sur ces tests.
Donc là, j'ai dans ma main un spray à l'eau florale de menthe poivrée. Enfin, c'est un spray d'eau florale. Donc on va voir les premières réactions à froid. Fermez les yeux. Alors, ça fait quoi ?
Ça sent bon.
Ça sent bon ?
Oui, ça sent le frais.
Ça sent la menthe. La menthe, voilà. Donc ça, c'est une manière de se rafraîchir sympathique. On a chaud, on est énervé dans sa voiture, dans un embouteillage, par exemple. Ben, on a le petit spray d'eau florale de menthe et puis on s'en spray partout. Et ça rafraîchit, ça détend. Alors, on peut faire le même test avec la rose de Damas. Donc ça, c'est la distillation des fleurs de rose de Damas. On y va.
Ça sent super bon. On a l'impression d'être parfumé, voilà. On dirait.
Donc ça, c'est des eaux florales. C'est vraiment des produits sympathiques. Très, très facile d'emploi parce qu'ils ne sont pas du tout piquants comme les huiles essentielles. Et par contre, ils peuvent s'utiliser au quotidien.
Lors de notre interview, nous étions curieuses sur la rentabilité d'une telle exploitation. Il nous l'a donc expliqué. En voici l'extrait.
Et cette activité, elle devient rentable au bout de combien de temps ?
Mais là, je commence à en vivre au bout de 3 ans. Donc voilà, le temps que les plantes poussent, que je mette au point mon système de commercialisation, mes tarifs, ma comptabilité, tout ce qui fait la pérennité d'une entreprise, quoi. Et voilà, je commence à pouvoir en vivre, payer mon loyer, puis en vivre juste, avec juste ce qu'il faut. C'est pas du tout encore la richesse, mais j'aime ce que je fais, donc je pense que c'est le principal.
Samuel nous explique les principales motivations pour avoir une entreprise.
Trouver la motivation à monter une entreprise quand on est jeune, aujourd'hui. Est-ce que c'est de l'optimisme de monter une entreprise maintenant ou est-ce que c'est lié au fait que le bio, ça se développe de plus en plus? Est-ce que ça crée une motivation?
Alors, je dirais que... entre une idée qu'on a, un projet, quelque chose qui nous plaît... et après une entreprise qui tourne, il y a quand même pas mal d'étapes. Et voilà, ce qui est important à voir, je pense, c'est 3 choses. C'est d'abord d'avoir la passion vraiment pour l'entreprise qu'on veut monter, pour le thème de l'entreprise. Parce que dans les moments durs, il va falloir se raccrocher à ça. Et les moments durs, il y en a obligatoirement. Après, il faut avoir vraiment une bonne connaissance de ce qu'on veut faire au sens production, hein, si on produit quelque chose, et aussi au sens vente, parce que ça sert à rien de produire des belles choses, par exemple des nœuds papillons en, je sais pas moi, en or, si personne va les acheter. Donc là, il faut bien analyser, bien réfléchir avant, sur comment je fais, combien ça coûte, est-ce que c'est réaliste, est-ce que je vais pouvoir les vendre, est-ce que ça intéresse les gens, voilà. Et après, ben, faut avoir de multiples qualités, quoi. Vraiment, je sais pas, même si je voulais faire des sandwichs et les vendre dans la rue, ben, il faudrait que je sache bien gérer mon entreprise de sandwichs et pas simplement couper du pain et mettre du beurre et d'autres choses dedans. Donc, je pense qu'il faut, aussi être bien formé pour être un gestionnaire de petite entreprise, quoi. Donc, on va allier passion, motivation, on va allier connaissance, réflexion avant le projet, et après une bonne assurance et des bonnes capacités de gérer une petite entreprise, quoi. Voilà.
Une entreprise comme celle-ci, le maintien dépend des choix et projets à venir. Voici les siens.
Diversifier, inventer, créer de nouvelles choses, être de plus en plus précis dans sa gestion, trouver de nouvelles parcelles à cultiver, tout ça, ça fait partie du programme 2015.
Voilà, c'était le dernier enregistrement. Donc maintenant, j'aurais voulu savoir, moi, comment vous aviez vécu ce projet, en fait, le fait d'aller rencontrer ces personnes et de les interviewer. Comment vous avez vécu tout ça?
Ben alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'aimerais bien faire mon métier aussi. Et donc, c'est des produits qui sont 100% naturels, donc c'est intéressant. Et puis, ça se développe de plus en plus. Donc, on peut s'en servir au quotidien. Donc, c'est super intéressant, moi, je trouve.
D'accord.
Et moi, pareil, puisque ce n'est pas forcément le métier que je veux faire. Je ne veux pas être dans les huiles essentielles. Mais après, c'est un rapport avec ce que je veux faire plus tard, la façon de gérer une entreprise. Il nous montre vraiment que c'est difficile, mais que tant que ça nous plaît, on peut réussir. Et qu'il ne faut pas arrêter sur des projets ou sur ce qu'on dit.
Donc ça a été enrichissant pour vous?
Oui,
tout à fait. Oui.
Et vous aviez choisi d'aller rencontrer ces personnes-là ou ça s'est fait comme ça?
Non, c'est nous qui l'avons choisi pour aller le voir à Los Mazos, du coup, son entreprise.
Ah. On était toutes les trois intéressées par les huiles essentielles. Et ce que ça a apporté, etc. Et du coup, bah, quand on nous a proposé Samuel Moussali comme entreprise avec Flora Luna, on a de suite foncé et on s'est de suite inscrite.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a amené le fait de venir là-bas avec des micros, etc. Qu'est-ce que ça a amené de différent par rapport à si vous y étiez allé comme ça?
C'est un peu plus difficile parce qu'il faut savoir mettre le micro, faire la bonne distance, voilà.
Mais dans le rapport avec les personnes que vous avez rencontrées, vous pensez que ça a changé quelque chose?
Non.
Peut-être que le producteur n'a pas dit tout ce qu'il voulait dire, mais s'il y avait des choses qu'il voulait ne pas dire.
D'accord.
Donc voilà.
Non, ouais, vous pensez que ça n'a pas trop modifié les échanges?
Non,
que,
pas
que
trop,
vous avez...
sinon.
Non, du tout. Enfin, Samuel, il a été assez ouvert. Il a quand même resté sur la perspective que c'était une interview et que du coup, c'était pour nous faire comprendre et pour nous apprendre son métier.
Nous expliquer.
Et du coup, voilà, il a vraiment développé ses... un peu trop, des fois même. Mais voilà, c'était super intéressant et on l'a remercié.
D'accord. Et alors, dans cette année scolaire, qu'est-ce que vous retiendrez de ce projet, en fait?
Ben, c'est super intéressant de pouvoir participer à une radio, faire une interview. Donc, ça change, on va dire, c'est la première fois qu'on faisait ça. Donc voilà.
Ça permet de se détacher aussi un peu du cursus scolaire et de la terminale avec les examens, etc. On avait le petit temps pour se détendre avec les interviews à gérer.
D'accord.
Donc voilà, sur ces quelques mots de la fin, cher éditeur, notre émission se termine. J'espère que cela vous a plu. Vous êtes sur Take It, la radio qui déchire. Nous vous laissons avec la citation de Samuel Moussali. Bonne fin de journée.
La mer est composée de plein de petites gouttes d'eau. Thank you.